Bonjour à tous. Je ferai une intervention en deux temps, un peu de théologie et un peu de pédagogie. Voilà, parce que je pense que voilà. Alors, en théologie, donc je vais essayer de parler de la manière dont comment Jésus rencontre les personnes, comment ce que la règle nous invite à rencontrer le Christ et les autres, et comment Thérèse parle de cette dynamique aussi fraternelle dont Anthony nous a un peu évoqué quelque part, quelque chose. Donc la thématique, c'est vraiment, on pourrait dire, là-bas, dans cette première thématique théologique, c'est vraiment le mystère de la rencontre. Parce que tout notre programme porte sur cette réalité théologique, on pourrait dire. Et dans la deuxième partie pédagogique, je vais vous présenter la bibliothèque numérique, pas tout, mais au moins sa logique, pourquoi est-ce qu'elle existe, comment vous pouvez l'utiliser. Et puis je vais un peu rentrer dans la question du guide méthodologique qui a fait peur à beaucoup d'entre vous. Donc pourquoi il existe? Voilà, comment vous pourrez l'utiliser, sachant que vous aurez des interprètes hein, qui sont les tutrices, puisque seules elles doivent le connaître par cœur. voilà, donc je vais un peu rentrer là-dedans parce que je pense qu'il y a eu un peu équivoque entre l'impression que voilà, on met une exigence très universitaire, alors qu'en même temps on est en train de dire tout le temps que c'est une formation permanente avec une transformation de la personne. Donc là, il faut vraiment que à ma manière, je puisse dire un peu les choses. Ok, ça va? Ok, alors hier soir, on a vécu une très belle veillée. Je remercie Anthony, dont j'ai découvert la voix, d'ailleurs, aussi. C'est pas moi qui aurais pu chanter aussi bien que toi. Hein. Et nous avons terminé la veillée sur cet évangile de Jean au chapitre 4 de la Samaritaine, qui a beaucoup touché Thérèse, parce que tu me confirmeras, mais on m'avait dit que dans la maison de Thérèse, la maison paternelle de Thérèse, il y avait une peinture, en fait, de la Samaritaine, et notre frère Jean Abivin tient qu'en fait, toutes les visions intellectuelles, toutes les réalités un peu surnaturelles que vit Thérèse, sont en fait fondées dans des réalités de mémoire qu'elle connaît déjà. Le Seigneur se sert de nos réalités de mémoire pour nous parler. Alors moi, j'aimerais vous dire quelque chose d'un peu différent. On va peut-être éteindre ce truc là qui commence à m'énerver. Venez, Anne. Je suis juste mal. Là. Allez-y.
Il faudrait dire non, mais je sais pas comment on va faire. Non, c'est l'ordi qui fait merveille, ça.
Ouais, et après?
Voilà.
Non, mais moi, c'est ce truc qu'il faut arrêter, quoi. Parce que ça énerve tout le monde et ça m'énerve.
Mais carrément enlevé et tout.
Ouais. Allez. Voilà. Je le remettrai après. Je le remettrai après. Ok, merci. Alors, donc, Jésus rencontre donc la Samaritaine. Et donc, dans la tradition carmélitaine, du coup, c'est un évangile qu'on a à la liturgie du 15 octobre. Enfin, en choix avec un autre, d'ailleurs. Et c'est un évangile qu'on retrouve beaucoup dans les commentaires thérésiens, dont, d'ailleurs, dans les premiers chapitres de « Je veux voir Dieu » de Marie-Eugène, qui reprend cette comparaison de la Samaritaine avec Nicodème. Et moi, j'aimerais vous dire la chose suivante. Première rencontre avec la Samaritaine, on a vu cette question de l'eau vive, ce désir que Jésus vient éveiller chez cette femme, cet accueil inconditionnel, ce passage, on pourrait dire, de la dispersion au recueillement, hein, tu as eu cinq maris, tu dis bien, hein, donc les cinq maris évoquent dans la l'exégèse les cinq divinités hein, qui sont autour de la région dont elle est là. Et Jésus, alors qu'on est au début de l'évangile de Jean, qui n'a encore rien révélé à ses apôtres, il lui parle d'emblée de son père, il lui révèle qu'il est le Messie, et au fond, il lui manifeste, alors que c'est une païenne, hein, qu'il est le Fils. Jésus rencontre une étrangère, une Samaritaine, et il lui dit qu'il est le Fils. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis. Je le suis. Moi qui te parle. » Ego imi. Donc on retrouve le « je suis » de l'origine biblique de Moïse. « Je suis, moi qui te parle. » Donc c'est la première femme à qui il révèle qui il est, son identité divine. Il est le Fils, et c'était une païenne, une samaritaine, qui a soif. Alors, que ça veut dire ? Il y a en nous ce que des théologiens modernes appellent une prédisposition filiale. Ce que les pères de l'Église, dont Athanase d'Alexandrie, appellera l'empreinte divine éternelle posée dans notre âme. Ça veut dire que la volonté de Dieu que nous soyons fils, en son fils, est éternelle. Avant même que nous soyons créés, Dieu a voulu que nous soyons fils. Et c'est ce que nous chantons souvent à l'office dans l'hymne aux Éphésiens 1, 3, 11. Il nous a prédestinés à être fils adoptifs. On en a un peu parlé dans une des tables où je suis venu manger. La vocation à être fils précède le péché. Nous sommes d'abord éternellement faits pour le Père à devenir des fils en son fils. Et puis, il y a eu l'accident du péché, l'accident originel, l'accident actuel, qui brouille, on pourrait dire, cette vocation. Mais le Fils, il vient d'abord pour nous manifester que nous sommes faits pour être fils. Pas d'abord pour nous enlever nos péchés. Pas d'abord pour nous guérir de nos blessures. Pas d'abord pour nous libérer de nos esclavages. Il vient nous révéler que nous sommes faits pour être fils. Et le Christ, en rencontrant la Samaritaine, il vient lui révéler de toute éternité, païenne ou juive, mon Père veut que tu l'adores parce que tu es faite pour cela. Nous sommes faits pour adorer le Père. Alors moi, j'ai découvert ça très tardivement, figurez-vous. Donc j'étais baptisé petit, confirmé, comme disent les jeunes païens qui se marient. J'ai tout, j'ai baptême, confirmation, communion. Et tu vas à la messe, non. tu aimes Jésus ? Je ne connais pas Jésus, moi. Vous voyez ? Non, moi j'ai tout fait. Et puis très tardivement dans mon projet, dans mon existence, j'ai découvert ça. Cette prééminence de la vocation filiale sur la question de la guérison morale. Ça change totalement une existence. De la vocation filiale sur toute forme de guérison morale, on pourrait dire. De sorte que, quand Jésus rencontre les plus pauvres, l'aveugle né, le Lazare, celui qui est au bord de la piscine de Bethsaida, c'est pas seulement les guérir de leurs péchés qu'il veut, c'est répondre à la parole du Père qui est en eux qu'il veut. Jésus, à travers les plus pauvres, répond à l'appel du Père. Et répondant à l'appel du Père, révèle la vocation filiale de tout homme. Voilà pourquoi Jésus n'a pas guéri la terre entière. Il y a une deuxième rencontre, parce que Jésus aime bien rencontrer les femmes, figurez-vous. Il n'a pas peur des femmes. Et il aime bien les rencontrer, surtout quand elles crient vers lui. Il y a une deuxième rencontre absolument extraordinaire. C'est Jésus qui rencontre la femme Hémorroïs. Marc, chapitre 5. Chapitre 5, oui, verset 28. Bon, vous savez que c'est inclus dans une autre parabole. Bon. Elle vint derrière la foule. Dans un parallèle, il dit, si jamais je parviens à toucher son vêtement, je serai guéri. Elle vint derrière la foule, toucha son vêtement. Elle se disait, si j'arrive à toucher au moins son vêtement, je serai sauvé. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, voyez, elle vient par derrière, elle est super discrète, hein, comme savent faire beaucoup de femmes. Et elle se dit, bon, allez, je touche son vêtement. Donc, elle pose une forme de foi, parce que tous les médecins, ça n'avait pas marché. Et à l'instant même, le flux de sang s'arrête. Alors, les exégètes ont travaillé sur ce morceau d'évangile qui est passionnant, parce que c'est un des seuls endroits où Jésus se fait toucher, lui. Normalement, il touche beaucoup de gens. Il touche les petits-enfants, il touche l'aveugle-né, il met la boue, etc. Il est très tactile, Jésus, il ne faut pas croire, c'est pas un ange. Mais là, il est touché par quelqu'un sans le vouloir. Et il dit à ses disciples, « Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples, super lourdos, « Tu vois la foule qui te presse et te demande qui m'a touché ?» Enfin, t'es complètement... T'as des millions de gens qui te touchent et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, toute craintive et tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille, il ne lui dit pas salut, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans la Samaritaine, Jésus révèle qu'il est fils. Je le suis, celui que tu dis. Ici, il révèle plus. Il révèle qu'il est prophétiquement le fils crucifié. Le flux de sang qu'il arrête chez cette femme, c'est celui qui se prend pour lui en vue de s'abandonner au Père, le paradis d'Omaïa, de la livraison grecque, en vue de s'abandonner au Père totalement dans cette effusion qui va jusqu'au don, jusqu'au sang. C'est en théologie, on appelle ça le mystère de la substitution. Jésus prend sur lui le péché sans s'identifier au pécheur. Il n'est pas pécheur. Et se substitue, c'est-à-dire il met la grâce, il met la vie divine là où il y avait la rupture. Là où il y avait l'abîme, Jésus met la vie. Voilà pourquoi il prophétise à travers cet endroit, en se laissant toucher, c'est-à-dire en se livrant, il n'y a pas d'autre mot, le fait qu'il va aller jusque au don du sang pour nous, hein, pour nous. Donc, deuxième rencontre extraordinaire où cette femme nous révèle, à travers l'événement qu'elle fait, elle ne fait pas que se guérir, vous voyez, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et où, regardez bien, ça ne l'intéresse pas de sauver les gens, qu'ils aillent mieux, puis c'est terminé. Non, Jésus veut de la rencontre. Elle s'est dit, bon, discrètement, je vais juste te toucher, puis je vais m'en aller parce que moi, je ne suis pas digne de lui parler, je ne suis rien du tout. Non, tu vas me parler. Et toute craintive, elle vient, on se rencontre, et parce que tu me rencontres, tu es sauvée. C'est la rencontre qui fait le salut. C'est pas juste le toucher. C'est très beau, ça. Hein? Et oui, ta foi t'a sauvé, mais... Et elle l'a explicité. Troisième rencontre. Alors là, super, super magique. Avec une troisième femme. Moi, je fais une retraite sur la rencontre de Jésus avec les femmes et tout ça, donc c'est un peu de mes dadas. Jésus rencontre la Magdaléenne, hein, celle aux sept démons, Marie-Madeleine. Mais il la rencontre au jour de Pâques. Pourquoi pleure femme, lui dit, alors il se rencontre là, elle voit... Bon, vêtue de blanc, assis à l'endroit même où le corps Jésus, etc. Pourquoi femme, lui dirent-ils, les anges, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais elle croyait qu'elle avait affaire au gardien, au jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu m'as mis et j'irai le prendre. Et il lui dit, Marie. Là, avec la rencontre du ressuscité, nous avons un nouveau degré. Ce n'est plus seulement le Fils, c'est plus seulement le Fils crucifié. C'est l'humanité qui est faite pour vivre en alliance avec Dieu par son unique Fils, Marie. Marie, la femme aux sept démons, la femme qui n'a pas connu l'amour humain, on pourrait dire, découvre la sponsalité en Christ. Découvre que notre âme est faite pour être l'épouse du Christ, la demeure de Dieu. Évidemment, vous imaginez bien que cette figure a été très, pas seulement par nos maîtres carmélitains, très déployée dans la mystique. Je pense à Guillaume de Saint-Thierry, je pense à Saint Bernard, je pense à... Enfin oui, j'ai prêché chez les cisterciennes récemment, on en a reparlé. C'est une figure éminente, on dit. La femme perdue devient l'épousée. Oui, alors parce que l'alliance ici, elle est vraiment complètement dans le surnaturel. Hein. Donc, et puis l'alliance inclut une forme de totale dépossession. Et donc il n'y a pas de possibilité. Dans l'alliance, il y a un accueil de la lumière sans possible possession. Donc, ne me touche pas, c'est-à-dire ne te raccroche pas. Je comprends comme ça. Hein. Ne te raccroche pas à des repères de cette terre. Car l'alliance est éternelle. Alors, ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'ici, donc, le Christ se révèle comme Fils ressuscité, c'est-à-dire celui en qui l'alliance est éternelle. Conclusion, de ces trois femmes, la rencontre avec le Christ n'est pas seulement une rencontre interpersonnelle, c'est l'expérience même du Christ pascal. Le Fils crucifié, qui nous manifeste la lumière de la résurrection. Or, quand on regarde la règle, il y a un article que je vous ai mis dans la bibliothèque numérique, on y reviendra après, d'un grand cabre qui s'appelle Claudius Rosin. Bon, c'est en italien alors. Qui a montré le lien entre fraternité, la règle et Lumen Gentium. Lumen Gentium, la constitution dogmatique de Vatican II. Et c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'il montre que la règle est structurée de manière fraternelle. Et bon, il y a un lien avec ce que je viens de dire avant, puisque la fraternité, à mon avis, c'est d'abord l'expérience de la rencontre avec le Christ pascal. Ce n'est pas d'abord une rencontre interpersonnelle entre moi et Anthony, quoi. C'est d'abord fondé dans l'expérience de la rencontre avec le Christ pascal. C'est fondement théologique. Et dans la règle, premier élément, il nous dit-il, elle est fondée d'abord dans cette image trinitaire. Albert, patriarche de Jérusalem, par la grâce de Dieu, à ses chers fils dans le Christ, B, Brocard, et autres ermites, qui vivent sous son obédience au Mont Carmel. À ses fils, dans le Christ. Et près de la source d'Élie, ça a été rapporté après, salut, bénédiction, dans le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Albert est un évêque italien, dont un de mes frères me racontait que récemment, qu'il a porté en lui depuis très longtemps le projet de faire une petite communauté orante, en Italie. Donc il est nommé à deux diocèses, si je ne me trompe pas, mais peut-être un. Versailles, puis peut-être je crois un autre. Bon. Et puis il est nommé tout à coup en Israël, là, mission spéciale. Et donc il abandonne ce projet qu'il portait en lui. Et il rencontre ces ermites qui viennent à lui avec ce projet. Donc ça match totalement, quoi. Entre le désir qu'il porte et leur demande. Et c'est pour ça que les carmes, ça a marché, me disait Stéphane Marie récemment, là, qui connaît très bien tout ça, parce que d'autres ont essayé, mais ils n'ont pas trouvé la rencontre avec le, on dirait nos mots modernes, avec le sponsor, quoi. Hein. Donc d'abord, la règle est fondée dans cette conscience que toute vie fraternelle a son origine, on dirait ultime, son origine immédiate dans le Christ pascal, origine ultime dans le mystère de la Trinité. Et d'ailleurs, c'est Marie de Brice, avec qui je suis en train de faire préparer le cours sur la vie fraternelle, m'a dit qu'elle avait beaucoup développé communion trinitaire, communion fraternelle. Bah oui, bah, quand même, c'est pas mal, quoi. Bon, je lui ai bien dit, mais dans le Christ, hein, voilà. Donc il fera ça. C'est un garçon très doué. Donc voilà, donc, première chose, c'est qu'il y a une rencontre qui se fait non seulement entre un désir que porte un évêque et puis une communauté, mais qui est ultimement fondée dans cette réalité trinitaire. Deuxième chose, c'est que la règle est fondée sur la parole de Dieu. Chacun restera dans sa cellule, méditant jour et nuit la loi du Seigneur, observant les heures, etc. Et donc, deuxième réalité, c'est que Marie, à part le fait qu'on est frère de Notre-Dame du Mont-Carmel, n'est quand même pas très explicite dans la règle. Il y a deux absents dans la règle. Hein. C'est qui le deuxième? Voilà, Élie aussi. Alors, Élie, ça sera le Baptiste qui va répondre à votre question, pourquoi Élie n'est pas là dans la règle, hein. Donc, il s'en est emparé, il a pris trois articles et puis il m'a répondu à ça. Mais Marie n'est pas non plus présente explicitement parce que toute la règle est mariale. Observer nuit et jour, méditer, Marie méditait tout cela dans son cœur, Luc 2, 51. Donc toute la règle a une structure, on pourrait dire, d'appropriation du mystère du Christ pascal marial. Marie est donc implicitement présente dans la règle comme modèle de recueillement et de cette vie sponsale dont je viens de parler. Et la communauté fraternelle, et c'est un peu le centre, à mon avis, un élément central de la règle, est fondée sur l'Eucharistie. Au milieu des cellules se tiendra l'oratoire dans lequel vous devez vous rassembler le matin de chaque jour pour écouter la messe. Et les commentateurs disent bien, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église, c'est une simple chapelle. Donc, Rosin dit bien, les ermites, ils ne voulaient pas de public, quoi. Ils ne voulaient pas que les gens viennent, voyez, chantent. Ils voulaient être, je ne dis pas qu'ils voulaient des gros rustres entre eux, hein, mais ils voulaient être ermites. Okay. Et donc, l'Eucharistie est donc le centre de la communauté, hein, source et fondement de toute vie chrétienne, rassemble, construit la communauté sur des liens théologaux. Car nos communautés, en particulier religieuses, OCDS, ont comme spécifique que les liens qui nous lient ne sont pas du tout charnels, sont vraiment uniquement théologaux. C'est une vie théologale qui nous unit. Parfois, nous glissons un peu parce que nous aimerions avoir des liens un peu plus charnels, c'est-à-dire plus de l'ordre de la vie habituelle. Mais bon, ben, c'est des deuils à faire. Voilà, Rabba, qui va vous enseigner Jean de la Croix, a eu cette clé de lecture. Ici, là, à Fontainebleau, on en parlait quand on s'était rencontrés à une rencontre ici. Elle m'a dit, tu sais, la formation, ce n'est pas des connaissances. La formation, c'est vachement simple. C'est des deuils à assumer. Et donc, c'est hyper vrai. Là, les deuils, c'est simple. C'est le passage de la vie charnelle, qui est bonne, hein, mais qui n'est pas suffisante, à une vie théologale, qui doit être intégrée quand même dans l'incarnation. L'oratoire est un lieu, on pourrait dire, comme la centrale nucléaire de la communauté. Hein. C'est un lieu de louange, de combat spirituel, d'intercession, de célébration du mémorial du Christ. J'insiste sur cette question du combat et de l'intercession. Nous, en communauté, on a un problème très simple qu'on retrouve dans toutes les communautés qui se disent communautés, c'est le chant. Et le maître de chant et le maître de chœur, c'est notre ennemi. Parce que toutes les semaines, il revient, il nous redit toujours un peu les mêmes choses, qu'il faut qu'on s'écoute, qu'il faut qu'on attende que l'autre ait commencé pour commencer le verset, enfin bref. Qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'on chante, qu'il faut que les nuls chantent moins fort que les bons, vous voyez ? Toutes les semaines, hein, voyez ? Toutes les semaines, tu te dis « Ah mince, je suis vraiment nul !» Et vous voyez bien dans quelle catégorie je me situe, quoi. Voilà. Et ben, en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais le cœur, comme présence à Dieu dans une prière liturgique ecclésiale, est un lieu de combat, mais un lieu où nous construisons la vie théologale. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour les communautés OCDS, qui parfois bâclent les vêpres, le disent rapidement avec un sandwich qui traîne sur la table. Non, on ne fait pas ça. Vous voyez ? Et c'est vrai pour vous, foyer aussi, enfin laïque qui vivez dans chez vous, on sort le smartphone, on dit rapidement les vêpes comme ça. Bon, ça va une fois, mais pas tout le temps. Vous voyez, on soigne notre prière. Mais aussi, je voudrais insister sur la dimension d'intercession comme fraternité. Je vais vous raconter une histoire, c'est que, moi j'ai pas une grosse expérience, mais j'avais été au Saint-Désert, donc on a un Saint-Désert, vous savez, pour faire classe, on dit que c'est près de Saint-Tropez, mais quand tu arrives là-bas, c'est pas Saint-Tropez. Hein. Okay. Donc c'est Roquebrune, et ce qui est magnifique, on a une équipe de gens très zélés, à un moment donné, vous voyez, des gars qui étaient vraiment des gros muscles. Et donc eux, ils se levaient entre 1h et 2h30 toutes les nuits, ils se recouchaient, puis ils se relevaient à 5h30, puis voilà, donc c'était... l'idée de la prière un peu non-stop. Moi, j'étais jeune, donc j'avais 30 ans, je trouvais ça incroyable, etc. Donc, je me suis mis à fond. Voilà. Et donc, les gars, ils sonnaient à 1h. Je disais aux prières, mais pourquoi tu sonnes? Il n'y aura pas grand monde, hein. C'est pas grave, ça les réveille, ça leur fait du bien. Enfin, d'accord, okay. Et puis, on se mettait à prier, on disait donc les vigiles, qui duraient 3/4 d'heure. Pas le fil de lecture, les vigiles. Hein, truc, bon. Et puis on faisait ensuite une demi-heure d'oraison. Et dans la demi-heure d'oraison, il était à peu près 2h15 du matin, hein, pas l'après-midi, hein. C'est pour la sœur. Et là, vous entendiez les discothèques en bas. Vous voyez ? Et là, je me disais, c'est incroyable, quoi. On prie pour ce monde qui crie, quoi. On prie pour ce monde qui est agité, quoi. Voilà. Et on était là-haut, mais pauvrement. Hein, et l'intercession, là, on la vivait, mais on peut dire physiquement, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Et puis, la communauté fraternelle est fondée sur cette nécessité de partager les biens en vérité. J'ai fait une étude approfondie de Anne et Saphir. Anne et Saphir, Actes des Apôtres. Vous savez que ça se finit mal pour eux, puisque... il y a une embrouille, et puis à la fin, Pierre dit, puisque c'est comme ça, vous allez mourir. Et puis l'un après l'autre, pof, et pof, il meurt, quoi. Hein? Et alors on s'est dit, bah, il meurt parce que, beaucoup disent, enfin, une lecture superficielle disent, bah, il meurt parce qu'ils ont volé. Ils ont volé à la communauté de l'argent, et donc, communauté honnête, où le vol égale mort, quoi. Et donc des exégètes ont dit, bah, c'est complètement faux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'Anne et Saphir, ils avaient tout à fait le droit de garder de l'argent. Ils ont volé à personne de l'argent, hein. Mais ce qu'ils ont fait de très mal et qui est incompatible avec la vie fraternelle, c'est qu'ils ont menti. Ils ont dit, nous, on a tout donné, alors qu'ils ont gardé une petite partie. Comme on dit au Sénégal, deux précautions valent mieux qu'une. Hein. On leur dit, mais t'es catholique, mais un peu animiste aussi, parce que deux précautions valent mieux qu'une. Hein. Ben là, c'est un peu ça qu'ils ont fait, quoi. Ils se sont dit, bon, on leur dit qu'on donne tout, mais on garde un peu en cas où on ne sait pas. Vous voyez ? Et en général, on ment dans ces conditions-là. On ment parce qu'on ne sait pas trop, etc. Et le mensonge est strictement incompatible avec la vie fraternelle. Voilà. Et puis, j'insiste, la communauté fraternelle vit dans une intention, une tension eschatologique. L'attente du Seigneur. Si quelqu'un fait plus, dit la règle, le Seigneur lui récompensera son retour. Donc, travailler en silence, obéir aux prières, etc., arme spirituelle, mais si quelqu'un fait plus, le Seigneur lui récompensera à son retour. Voilà. Donc, la vie fraternelle, fondée dans le Christ pascal, qui, dans notre règle, est fondée aussi en particulier sur cette centralité, bien sûr, non seulement de l'Eucharistie, de l'attente eucharistique, de la vie théologale, mais aussi, comme spécifique, le dit bien Rosin, de... le prieur n'est pas un abbé. C'est un grand frère. Primus inter fratres. C'est un grand frère. Et là, c'est une nouveauté dans la vie religieuse. On en a pas un peu reparlé. Thérèse veut se réapproprier cet héritage des pères de la règle. La faire sienne. Mais alors, quelques siècles après, et dans un autre contexte, elle n'est pas au Mont Carmel. Et elle choisit effectivement d'abord des petites communautés occupées à prier pour l'Église. On revient à notre intention d'intercession, hein, qui est fondatrice, quoi. Elle voit, bon, c'est la contre-réforme, c'est on peut dire c'est l'arrivée des premiers colons en Amérique du Sud. Bon. Et donc Marie Laurent, dans un article pareil, qui est Bibliothèque numérique, je continue ma pub, a écrit un article intéressant dans Thérésianum sur pourquoi Thérèse dit au début que c'est 12. Le 12 se réfère à Actes des Apôtres, dans lequel est fondée explicitement la règle. Donc c'est tout pensé, hein. Et où, voilà, on serait 12, donc les 12 apôtres, à 21. Voilà. Donc pourquoi elle est passée de 12 à 21, il explique tout ça. Même droit, et puis sans aucune différence de classe. Vivant dans alors j'incite beaucoup, une fraternité fondée dans une vraie pauvreté. Thérèse, vraiment, du souvenir que j'ai, je ne suis pas spécialiste comme Anthony, hein, mais Thérèse, c'est obsessionnel, hein, son rapport à la pauvreté, à la providence, quoi. Hein. Je crois qu'il y a une page où elle dit, ben, on n'a rien à manger, les sœurs, vous installez et vous attendez que quelqu'un vienne. Et ben, si quelqu'un ne vient pas, ben, vous crevez de faim, et puis c'est tout, quoi. Hein. Ouais, c'est tout, quoi. On attend. Bon, je crois que quelques heures après, quelqu'un qui vient, quoi. Bon. Alors, c'est vrai, vous voyez, dans nos communautés, souvent, on se plaint. Hein. Ça arrive, hein, on n'est pas parfait. Hein. Dans ce communauté, on se plaint, bon, par exemple, souvent de la nourriture, quoi. Là, j'en reparlais avec Stéphane Marie, il me disait, tu comprends, la sœur, je sais pas, Louise, là, la fille de Louis XV, je crois, c'est ça, hein, tu te rends compte, elle m'a dit, elle rentre dans ce Carmel, c'était tout dégueulasse, c'était vraiment mal loti, et surtout, on mangeait très mal. La fille du roi, quoi. Vous voyez. Alors, je dis pas que bien manger est une vertu. Mal manger est une vertu, je ne dis pas ça. Mais bon, ça fait partie des choses, c'est-à-dire qu'on reçoit, on reçoit ce qu'on nous donne, quoi. Voilà. On voit des jeunes qui, quand il y a trois plats, ils choisissent, ils regardent bien. Bon, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Tu prends un peu de chacun, tu ne discutes pas. Voilà. Bon, c'est pas moi le formateur, hein, donc...
Ça va. Ça va, il y a un gars plus sympa qui s'appelle Henri.
Et puis, Anthony en a parlé, vraiment la question de, dans cette maison, toutes doivent s'aimer et être amies, et elles doivent s'entraider. Capmino, chapitre 4, vers numéro 7. Alors toi, tu as insisté sur toutes, et moi j'ai eu un gros problème avec s'aimer quand même, quoi, parce que bon, quand on regarde de près, pas évident. Et je dirais, dans cette maison, toutes doivent être dans une vraie bienveillance, pour le traduire. S'aimer affectivement, non, mais la bienveillance, c'est le début de la charité, quoi. Bien sûr, voilà, avec ce qu'on est, quoi. Et puis, appeler vraiment à une mission ecclésiale, vraiment, le monde est en feu, ça, on l'a dit, hein, c'est très, très fort chez elle. Là, maintenant, c'est pas le monde est en feu, c'est la France est en feu, puisque toutes les forêts brûlent, donc là, c'est physique, maintenant. Et puis, une grande perfection avec beaucoup de douceur. Hein, le Rosin commente en disant « La prieure ne doit pas être maternaliste, mais maternelle. » Ouais, parce que parfois, on a l'impression que les sœurs sont dans sa matrice, quoi. Donc, non, il faut qu'elle soit maternelle, mais pas maternaliste, quoi. Hein. Voilà. Corriger en aidant à faire grandir. Donc, la question de la correction fraternelle, hein, qui sont aujourd'hui en grand débat. Voilà. On dit... On est passé de... Vous savez, il y avait un zélateur. Donc c'était un gars qui était super spécialiste, qui disait « Ah, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. » Puis après, qui dénonçait à la communauté. On est passé de ça à au bisounours, quoi. Hein? Ouais, tout va bien, c'est sympa. Enfin, alors, entre les deux, bon, il y a des réflexions actuellement sur comment se corriger avec bienveillance, en étant juste, et tout en faisant vraiment grandir, et puis en stimulant la charité, quoi. Voilà. Donc, voilà, fondement pascal, la règle dans sa structure est fraternelle et Thérèse la fait sienne dans une manière toute particulière. Hein, dans une manière, on pourrait dire vraiment des communautés fraternelles, des communautés familiales, où on peut dire la graine de CNV de l'évangile grandit dans chaque cœur dans un lien évangélique. Voilà, bon ça c'est pour la première partie, j'avais ensuite tout un développement mais je vais faire autrement. Parce que c'est vrai que notre projet, il a été pensé dans cette optique. Voilà, on a pensé tout ça et on s'est dit comment on peut transmettre ça. Nous, on ne s'est pas dit, voilà, on a fait un virage. On s'est dit, avant, la formation offrait des cours avec des validations, avec une dimension universitaire. On s'est dit, le charisme du Carmel, ce n'est pas de la connaissance, des validations, avec des acquisitions de savoir qu'on valide. On s'est dit, au fond, le Carmel, le charisme, c'est cette structure de communauté spécifique qui donne une manière d'être en relation toute nouvelle, toute autre, et qui colle avec l'Évangile, qui colle avec le mystère du Christ, qui fait que nos saints, nos mystiques, ont ensuite explicité, par effet de conséquence, la manière de vivre les mystères du Christ dans leur chair de manière spécifique. Hein, on pense à... voilà. Et alors, le grand truc, c'est que nos saints ont développé, on pourrait dire, une grammaire de la charité fraternelle, une manière de dire comment est-ce qu'on vit la charité, comment est-ce qu'on la module, voyez. Et c'est pour ça, en vertu de cette grammaire, avec une logique, avec des points de référence, avec un mot qui veut dire quelque chose, une réalité qui correspond à une vérité, on peut dire, éternelle, que nous a mis en place ensuite des exigences pédagogiques. Les exigences pédagogiques sont au service de l'imprégnation, de l'appropriation de l'expérience mystique. Ça, en général, on sépare bien les deux, vous voyez, hein, mais on ne veut pas, nous. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez un guide méthodologique de 36 pages. On va y revenir. C'est vraiment uniquement à ce service. Et les tutrices ont fait ce chemin, savent pourquoi et vous aideront à mieux comprendre. Le Carmel, c'est une famille. Une famille qui n'est pas uniquement faite des gens qu'on rencontre, là, ici. C'est, on pourrait dire, Henri disait, une tradition, Anthony, une tradition vivante. C'est beaucoup de gens qui ont commenté, développé, approfondi la manière de recevoir ce mystère du Christ dans notre vie. Et c'est pour ça alors que j'ai mis en place, ça m'a pris un petit peu de temps, une bibliothèque numérique. Alors, c'était un gros projet au départ qui est devenu un peu plus simple après. Mon idée, c'est que quand on est étudiant, surtout à distance, les professeurs peuvent vous balancer une bibliographie de 5 pages, 4 pages. Vous n'irez jamais chercher les références. Hein, si vous êtes en plus, je ne sais pas, en Ariège, jamais vous irez chercher. Donc, mon idée, c'était de mettre à disposition des étudiants des références qui vous permettent d'approfondir les cours, mais qui ne sont pas à but d'abord de validation. Pourquoi ? Parce que la logique est la suivante. Alors que dans un truc diplômant universitaire, grande école, en vue de devenir ingénieur des ponts et chaussées, tout est dans le diplôme, tout est dans la validation, nous, tout est dans l'accompagnement. Tout est là. C'est dans l'accompagnement que vous allez faire l'unité, que vous allez approfondir, que vous allez vous imprégner, que vous allez intégrer ce que nous, on essaie de vous transmettre. Les validations sont d'autres rencontres avec des professeurs qui sont courtes. Hein. En gros, une bonne validation réussie, c'est 12 minutes. Hein. OK, je vous le dis. Hein. Essayez pas d'aller à 15 parce que le professeur est jusque-là. Hein. 12 minutes, vous avez tout fini. Hein. Et c'est une rencontre avec un petit exposé, deux ou trois questions que le professeur vous pose et terminé. Voyez, vous n'êtes pas là pour « alors, ça se passe bien dans ta vie ?» Non, que dalle. Voyez, c'est hyper précis. Okay. Donc, les validations sont peu de choses par rapport au chemin d'accompagnement pour lequel nous vous donnons beaucoup d'outils. Parmi ces outils, il y a effectivement une bibliothèque numérique. Alors, on est parti. Dans la bibliothèque numérique, vous avez une sélection de 60 livres que nous avons pensé pour vous, en fonction des thématiques, pensées, cours. Ça, vous trouvez ça sur Internet. Pour chaque livre, vous pouvez cliquer, et la plupart des livres, à 90%, vous pouvez ensuite recliquer et l'acheter à un taux très bas en version numérique. Donc, vous avez le livre chez vous en version numérique. Ben, il faut payer. Et ça ne va pas à moi, l'argent. Hein. Okay. Donc, ça, c'est 60 livres. Nous avons mis les meilleurs livres de nos saints docteurs, les meilleurs livres de nos thématiques aussi. Voilà, donc vous avez ici, là, c'est tout bête, Alors, c'est une réflexion qu'on s'est faite en équipe, hein, c'est pas moi tout seul. Hein. On s'est dit, il faut les aider. Donc, on a fait des sélections. Hein. Vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez. Et nous avons mis à chaque fois que 4 livres. Avec en gros, rien qu'un de ces livres, vous faites tout. Hein. Okay. Donc, que 4 livres. Et souvent, les livres qui sont liés aux auteurs, c'est-à-dire aux professeurs. Hein. Par exemple, ici, Marie-Laurent fait partie des professeurs. Luc-Marie aussi. Hein. Bon, Thomas Alvarez, il est mort. Donc, c'est foutu. OK. OK, voilà. Pareil, donc là, vous avez un problème. OK, donc vous avez, on a 4 livres et ça suffit. OK. Pareil pour la Vierge Marie, etc. Donc là, il y a 60 livres. OK. N'en achetez pas trop non plus. Hein. Voilà. Mais qui peuvent y aider à approfondir. Vous voyez, un bon livre suffit. Vous voyez, prenez par exemple le cours sur chemin de perfection. Prenez le livre de Luc-Marie, ça suffit. Voyez. Alors moi, vraiment, hein, moi, d'abord, j'ai un gros défaut, je ne suis pas un lecteur voyez, comme tous les jeunes. Quoi. On dit, les jeunes, ils disent, j'aime pas lire. Voilà. Mais j'ai beaucoup lu quand même. Et lisez peu, mais lisez bien. Voilà, lisez peu, mais lisez bien. Voyez, prenez du temps sur un livre, sur un an, plutôt que acheter 10 livres, vous en lisez 5 pages de chacun, c'est zéro. D'accord. Première chose. Donc là, il y a 60 livres jusqu'à la fin. Ça, c'est première chose. Mais ça, c'est peu de choses. Ensuite, vous avez ça. Donc, ça, c'est mon cloud. Mais à part vous avez le sommaire sur Moodle. Hein, vous avez une catégorie avec les articles de la revue Carmel. Donc, nous avons mis un contrat avec la revue Carmel, un contrat moral pour l'instant, hein, où Stéphane Marie m'a mis à disposition pour vous, gratuitement, les 10 dernières années de la revue Carmel. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Dans ces 10 dernières années, donc vous avez les 38 numéros de revue Carmel, c'est des bijoux, quoi. Okay, donc, vous avez des numéros sur Thérèse, des numéros sur Jean de la Croix. Voilà. Avec Anne, nous avons créé un sommaire qui vous permet d'aller plus vite. Parce que dans chaque numéro, vous avez des articles, et pouvoir assez vite, parce qu'on n'a pas pour l'instant pu faire une espèce de grand sommaire de toute la bibliothèque, c'était trop de boulot, quoi. Donc, on a fait un sommaire rapide où on a mis en PDF toutes les couvertures et les sommaires de chacun de ces numéros. Vous pouvez aller vite voir si vous avez un article. Vous avez par exemple 2 numéros sur Ellie dans ce sommaire. Vous voyez, 2 numéros sur Ellie, et avec quelques articles qui sont bons, pas tous. Donc, c'est un bijou, OK. Alors, cette revue Carmel, je vous le dis à vous qui êtes là, nous, on a un peu cette entente avec Stéphane Marie, donc directeur des éditions de Carmel. On fait cet essai. Si vous êtes super content, super enthousiaste, super excité sur la revue Carmel, on verra dans le temps comment mettre à disposition toute la revue Carmel. Mais là, c'était un gros investissement, une grosse affaire. Et comme m'a dit Stéphane, il faut vraiment vérifier qu'il soit, que ça vaille la peine. Mais nous, Institut, on était prêts à payer ça. Mais outre qu'on ne mesurait pas tout le boulot qu'on avait à côté, hein, il n'y avait pas que ça, donc on a bien fait d'y aller mollo. Quoi, hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est que si vous êtes vraiment dedans, vous aurez accès à toute la revue Carmel. Voilà. Ce qui est un travail qui, du coup, rendra aussi service aux éditions. Deuxième point, donc les livres, 60 livres, 38 numéros de la revue Carmel. Et puis ensuite, j'ai créé des articles scientifiques. Au début, c'était peu de choses, puis je m'y suis mis, puis à force de m'y mettre, c'est devenu un peu compliqué, quoi. Enfin, un peu gros. Quoi. Là, vous avez, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, ça c'est bon. Je les ai triés de la même manière suivante. Vous avez pour chaque saint, Edith Stein, Elisabeth, Jean de la Croix, Élie, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Il m'en manque un, c'est la Vierge Marie. Ok, dans le temps, je vais le faire. Je suis un peu voilà, c'est pas évident quoi. Vous avez pour chaque, alors ma logique est la suivante. Pour chaque docteur, vous avez 20 articles. Si jamais je trouve un autre article qui est vachement mieux, j'enlève un article. Ça, c'est on en a beaucoup parlé aussi pour une équipe. On s'est dit, il faut donner une sélection d'articles. Parce qu'à la fin, vous allez avoir 150 articles pour Jean de la Croix et vous saurez plus ce qui est bon. Donc, moi, je sélectionne les 20 meilleurs articles. Dans ces 20, par exemple, admettons qu'on prenne Jean de la Croix. Okay, voilà. Dans ces articles, ici, là, vous avez les meilleurs. Franchement, hein, vous avez les meilleurs. Bruno de Jésus-Marie. Hein, qui était ici, vous avez les meilleurs, dont des articles, alors, pour ceux qui sont des capacités, quelques articles en langue étrangère. Hein, par exemple, admettons, vous avez cet article absolument incroyable sur voilà, les trois signes initiaux du passage de la méditation à la contemplation chez Jean de la Croix. Hein. Enfin, si ça vous intéresse, super, quoi. Vous voyez, c'est un article de 1949, hein, c'est vachement simple, mais c'est en anglais. Donc, et le sommaire est en latin, vous voyez. Donc, ok. Mais, ok. Alors, j'ajoute. Bon, les tutrices, selon leur domaine, auront connaissance de l'existence de ces articles. Bien sûr, il y en a une qui est super, 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 super forte. Elle me dit, est-ce que je dois tout lire? Je dis, non, lisez pas tout, soyez cool. Mais elles seront, par exemple, admettons que il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez l'approfondir. Les articles sont en streaming, ils ne sont pas téléchargeables, parce que j'ai pris des millions d'heures pour faire cela, et je n'ai pas envie que tout le monde, avec un clic, comme a dit Anne, avec un clic, ils peuvent tous les télécharger. Non, vous ne téléchargez pas tout avec un clic, quoi. Voilà, donc ils sont streamés, vous pouvez les lire sur écran, et ça se fait, regardez, ils sont propres, hein, ils sont beaux. Hein. Voilà, ok, donc ça c'est bon, et puis, donc pour chaque saint, je suis bon là, mais ça se... Non, s'il faut que je fasse comme ça. Et ensuite, j'ai créé, donc Thérèse de Lisieux, 20, Thérèse d'Avila, 20, alors Élie, je suis à 12, Élie, il est pas bon, voilà, hein, c'est pas, il n'est pas docteur de l'Église, que je sache. Donc, voilà, mais c'est des très, très bons articles, dont des articles de Revue Carmel, Joseph Baudry et compagnie. À travers ça, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont marqué le Carmel, j'insiste. Voilà, aussi des grands carmes, j'en ai mis. Jean de la Croix, Elisabeth, c'est 10, et Edith Stein, c'est 10. Quand elle passera docteur, elle passera à 20. En allemand, j'en ai un, c'est une thèse de doctorat, c'est une excite, celle de Christophe. Mais bon, je pense que vous n'allez pas aller voir la question de l'individualité de la personne chez Edith Stein, ça me devient un peu compliqué. Alors, ensuite, j'ai des thématiques qui correspondent à peu près au tableau du bas, voyez, que j'ai créé au fur et à mesure, donc l'accompagnement spirituel, l'anthropologie théologique, l'histoire de l'ordre, la règle du Carmel, théologie spirituelle, vie contemplative et vie fraternelle. Voilà. Bon, peut-être que j'en rajouterai l'un ou l'autre, mais en gros, on est là. Donc, l'idée, c'est que, voilà, okay, pourquoi j'ai fait tout ça? Un, pour que ça soit accessible pour vous. Deux, pour que vous puissiez approfondir, lire des choses qui correspondent vraiment à vos thématiques. Voilà. Et trois, dans cette optique vraiment d'appropriation du charisme. OK. Alors, certains me disent, mais alors, les articles pour les examens. Non, les articles, ce n'est pas exactement pour les examens, vous voyez, c'est pour la formation. J'insiste, vous voyez. Souvent, on voit tout de manière utilitaire, on fait examen, validation, le prof verra que j'ai lu un article hyper balèze. Non, vous êtes dans une optique de validation. À la limite, l'article, vous pouvez plutôt en parler qu'une tutrice, quoi. Vous voyez. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai lu cet article, qu'est-ce que... Vous voyez, et puis même dans votre, je sais pas quoi, vos trucs Moodle, là, voilà, j'ai lu cet article, je vous recommande aux autres cet article, il est vachement intéressant. À la limite. Mais on est vraiment dans une optique de formation, pas de universitaire, vous voyez. Okay. Mais c'est une culture, c'est un... une serre dans laquelle je vous insère. Okay. Donc ça, c'était le premier point. Dans laquelle je vous... Oui, j'ai une serre, comme une serre d'une plante. Je vous insère. Je n'ai pas le problème. OK, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne maintenant... Je vais terminer là-dessus, hein, ça c'est bon. Hein. Le guide méthodologique. Donc le truc qui a fait frémir plus d'un étudiant. Voilà. On a mis en place un guide méthodologique parce que nous, on a l'expérience des 8 années d'avant où j'ai corrigé, je pense, 180 copies à peu près en 2 ans. Et donc, on a de tout, quoi. On a des gens... qui écrivent, je ne sais pas, ça de notes de bas de page pour des petites références évangéliques. Bon, vous voyez, on a de tout. Des gens qui écrivent bien, d'autres des gens qui sont perdus, d'autres gens qui écrivent pas bien. Enfin, on voulait, voilà. Et quel est le but de ce guide? C'est que, en faisant un travail de précision, y compris pour les normes typographiques, vous travaillez au fait que l'acte de charité est un acte divin en nous qui implique une précision humaine importante. Les saints ne sont pas charitables spontanément, comme ça. en étant sympa. Non, ils sont très, très précis quand vous regardez de près, quoi. Et le résultat, on pourrait dire, écrit de tout ça est la finale d'un travail sur soi. Et quelle est cette précision ? J'insiste. Quand on regarde dans la tradition des pères de l'Église, bon, je suis en train de lire un bouquin un peu épais là-dessus, c'est ce passage permanent de la non-maîtrise des passions à la pateia. C'est ce passage permanent que nos passions nous dominent, qu'on dit des choses, etc., qu'on vit des choses, qu'on vit. Nos jeunes disent qu'il faut vibrer les choses. Ouais. Ok, on vibre des choses, donc ça c'est complètement spontané, c'est de la passion à la vertu. Et c'est pour ça que Thérèse commence le cabinet en disant, écoutez les filles, avant de vouloir la contemplation, commencez par la vertu. Et détachement qui, on pourrait dire, est comme l'autre versant de la vertu, et puis de la vie fraternelle qui est son application. Donc, quand on vous demande des normes typographiques, c'est pas parce qu'on, d'abord, c'est certainement pas parce qu'on est méchant, ensuite, ce n'est pas parce qu'on veut que vous soyez des super universitaires qui allaient préparer Harvard ou Boston ou MIT, enfin, ça ne nous intéresse pas. C'est parce qu'on est convaincu, c'est mon expérience, qu'en vous aidant à être assez normatif, c'est-à-dire vraiment, on met un cadre qui est ultra fort pour vous permettre d'être plus libre en fait, dans cette réalité et d'être plus précis dans l'accueil de la grâce. Parce que Thérèse a fait quelque chose d'incroyable, on en parlait à table dans une des tables, c'est qu'elle est quand même, non seulement elle vit des grâces mystiques, ce qui est accessible quasiment à tout le monde, tous les baptisés, ensuite elle fait un travail de compréhension de cette grâce, et ensuite elle les transmet à des gens de manière compréhensible. Parce que, vous voyez, on parlait beaucoup de témoins, d'être disciples, transmettre la grâce. Si vous n'êtes pas capable d'être précis dans ce que vous faites, et pas seulement au plan professionnel, je suis ingénieur, je fais un pont, tout est nickel, aussi au plan personnel. Vous ne pouvez pas témoigner de manière un peu objective de votre grâce. Et vous êtes toujours, excusez-moi de vous dire, dans un témoignage complètement subjectif. Moi, j'ai vécu ça, c'était super. Tu sais quoi, on s'en fout. On s'en fout. Oui. Ce qui fait que Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux sont devenus universels, c'est qu'ils ont acquis un langage, une grammaire, une manière de parler qui parle à tous parce qu'ils sont devenus très, très, très précis. Qu'un mot est un mot, qu'une résonance est une résonance, qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire parce qu'elles vont de soi, qu'elles sont dans le silence. Il y a des choses qu'on... Voilà. Et nous, on veut vous aider, pour ne pas dire vous éduquer, le terme est un peu prétentieux, mais vous aider à entrer dans cette précision de la compréhension de l'accueil de la grâce pour mieux la transmettre de manière objective dans l'Église. C'est clair, ça ? Vous voyez ? C'est pour ça qu'on a fait nous-mêmes un guide méthodologique. Alors, avec Violaine, on l'a beaucoup fait. Et nous, on s'est dit, la base de la base, c'est que notre site, notre guide, tout soit nickel. C'est-à-dire qu'à la base, il faut qu'on montre l'exemple, n'est-ce pas ? Donc nous, on a fait un guide qui est, on a tout mis, au début, c'était comme ça, après, on a mis le guide aux normes du guide, vous voyez ? Oui, parce qu'on avait un guide et en fait, on obligeait à des normes qu'on ne respectait pas nous-mêmes. Donc on a mis le guide aux normes du guide. Donc quand vous voyez le guide, vous dites, en gros, c'est comme ça qu'il faut écrire, vous voyez ? C'est le truc parfait. Puis après, Vuel vous mettra des copies modèles, des trucs comme ça. J'insiste parce que ce n'est pas évident de comprendre les choses comme ça. Souvent, on voit un guide, on se dit, bon, ouais, c'est... Alors, ensuite, au niveau de l'utilisation de ce guide, c'est la Bible, d'abord pour les tutrices, qui méditent le guide méthodologique jour et nuit. Et puis, aussi, il y a une question que c'est une loi, c'est un peu comme une loi objective, c'est la même loi pour les professeurs, pour les étudiants et pour tout le monde. Parce que les étudiants ont les règles dans lesquelles ils seront notés par les profs. On leur dit comment vous serez notés, tout ça, tout. Et nous, alors c'est ce qu'on est en train de faire avec Anne en ce moment, on va envoyer à tous les profs des extraits de guides en disant c'est comme ça que vous faites. Et on ne vous demande pas de faire autrement. Surtout quand ils ne sont pas docteurs. Parce que quand ils ne sont pas docteurs, ils n'ont pas d'expérience et donc ils vont faire à la one again, quoi. Et Anne a l'expérience, il y a des profs qui sont sympas, qui font des commentaires, d'autres qui n'en font pas. Enfin, il y a de tout chez les profs aussi. On ne veut pas qu'il y ait de tout, quoi. Voyez ? Alors, on leur expliquera aussi que c'est un engagement, que nous, on les respecte, qu'on leur fait des contrats, droits d'auteur, qu'on les paye, et que, aussi, c'est un engagement spirituel sur lequel ils sont tous convaincus. Et que, pareil, ils ont du coup des règles qu'ils vont respecter. Et je vous dis, surtout ceux qui ne sont pas docteurs, parce que ceux qui sont docteurs, ils ont une telle expérience qu'on sait que ça marche à peu près, quoi. Voilà. Mais ceux qui n'ont jamais fait passer d'examen, là, j'en ai plein. Comment on fait ? Guide, page 32, c'est tout, quoi. Okay ? Parce que c'est ça qui fait la formation, vous voyez ? C'est le fait d'être dans une réalité où on est tous précis et on est dans des repères objectifs, quoi, vous voyez ? Ce qui fait, qu'est-ce que ça change ? Nous, notre désir, notre espérance, notre souhait, c'est que dans 3-4 ans, vous pourrez rendre compte, soit comme laïque dans un lycée, comme pour vous, soit pour une carmélite, soit quelqu'un de l'OCDS, qu'importe, de manière beaucoup plus objective, des grâces que vous recevez à des gens. Et qu'est-ce qui se passe alors ? C'est qu'on est plus fécond. Vous voyez ? On est plus fécond. Parce qu'on parle de manière plus... On parle vraiment à tous. Encore plus vrai pour des prêtres, etc. On parle à tous. Voyez. Et vraiment, nos saints sont devenus universels parce que leur grammaire est compréhensible de tous. Et pour cela, il y a un travail en amont énorme, voyez, pour sortir des impressions, on pourrait dire, trop personnelles, trop charnelles, trop passionnelles, trop... Voyez. Est-ce que... Voilà, je crois que j'ai bien expliqué, je pense, l'enjeu de ce guide. Je le réexpliquerai au groupe d'après, puis après on fera une petite vidéo un jour... quelque part, parce que pour que ça soit mis quelque part, quoi, qu'on comprenne, quoi, hein. Parce que ça fait peur, mais en fait c'est pas pour but de vous faire peur, et c'est certainement pas pour but de vous dire bac plus 12, quoi, voyez, c'est pas ça du tout, hein, voyez. Après rassurez-vous, si vous faites un gros effort typographique, en gros, si votre copie est vraiment, on pourrait dire, cohérente dans la présentation, c'est bon. Vous voyez, si vous n'êtes pas du Times 12, mais du Times 11, c'est bon. Vous voyez, ce qui compte, c'est la cohérence du propos, même, on pourrait dire, typographique. Moi, je vais vous le dire. Hein, bon, j'ai maintenant corrigé pas mal de copies. Je vois une copie, je mets la note. Je n'ai pas lu encore. C'est direct. Je vois une copie, je mets la note. Et je me trompe à un point près. C'est direct. On voit la copie, on se dit, bon, bah 12-13. Vous voyez, on lit, on se dit, bon, allez, 13. C'est bon, voyez. C'est direct. C'est la forme dit le fond, voyez. Donc c'est ça qu'on aimerait. Et donc on pense que si on est dans un propos sérieux de formation permanente, il faut être sérieux. Nous on essaie d'être sérieux avec vous. Il faut être sérieux avec nous. Voilà. Et ça c'est vraiment un service qu'on rend, hein, pour le coup, quoi. Bon, allez, ça suffit, quoi. Je crois qu'il est l'heure.